RMC Intégral Euro.
Jean-Louis Tour.
Il est 17h59. Bonsoir à tous. Bienvenue sur RMC pour l'intégrale Euro. Il reste 2 huitièmes de finale dans cette édition de l'Euro. Roumanie-Pays-Bas dans quelques secondes et Autriche-Turquie. Des matchs que vous allez suivre en intégralité sur RMC avec en plus dès maintenant le débrief de la qualif des Bleus hier face à la Belgique. On va en parler avec la Dream Team. Eric Dimeco est avec nous. Salut Eric.
Salut Jean-Louis. Salut à tous.
Captain Larquet. Salut Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Et Eric Roy qui est avec nous. Salut Eric.
Salut Jean-Louis. Bonjour à tous.
Salut.
On a un beau plateau là quand même. Là, on va se régaler pendant 2 heures. Je le sens. On a une petite pensée pour Jérôme Rotten quand même.
Mais il est décédé ou non alors du coup?
Non.
Ah. Ah, parce que moi, on m'avait dit qu'il était.
Non, mais le match d'hier a provoqué quelques traumatismes chez certains. Hein. Donc, lui, il faut 24 ans
d'accord.
De plus pour
c'est parti à Munich. Voilà.
Et ça, c'est la voix de Florent Germain qui ne va pas demander des infos sur Lilian Brassier et Eric Roy parce qu'il les a déjà. Mais il va commenter Roumanie-Pays-Bas. Ça vient de partir, Flo. Bonsoir.
Salut à tous. Après, si Eric veut préciser si Lilian Brassier est bien à Marseille. Ce sera avec plaisir pour les auditeurs de RMC.
On va le faire tout à l'heure, t'inquiète pas.
Ouais, je sais, je compte sur toi. 20 secondes de jeu dans cette rencontre. Grosse ambiance. Les Roumains, c'est pas une surprise. Tous en jaune dans les tribunes, mettent le feu depuis une demi-heure. Ils ont du répondant en face avec les supporters néerlandais. Roumanie, Pays-Bas dans la partie de tableau qui est jugée peut-être prenable pour les Hollandais notamment. En tout cas, match qui part sur de bonnes bases avec les Roumains qui étaient pas loin d'avoir un corner et finalement ça a été bien récupéré par la défense néerlandaise. 0-0 évidemment, une minute de jeu dans ce Roumanie-Pays-Bas.
On va suivre ce match en longueur avec toi Flo, mais on va aussi donc débriefer en longueur la qualif des Bleus pour les quarts de finale de l'Euro à 19h. On va se demander si avec le duo Mbappé-Griezmann dans cet état, on peut aller loin dans cet Euro. Vous pouvez nous appeler au 32-16 bien sûr. On va se demander aussi si Deschamps a été sécurisé jusqu'en 2026 grâce à cette victoire hier. Ça, ce sera à 18h30 sur tous ces sujets, le 32-16 et les infos RMC Sport grâce à nos envoyés spéciaux qu'on va retrouver très régulièrement. Et puis RMC vous envoie vendredi au quart de finale des Bleus face au Portugal. Le voyage à Hambourg, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC et vos 2 places donc pour ce France-Portugal de vendredi à 21h. Il faut être attentif à l'alerte sonore. Elle peut tomber à n'importe quel moment et dès qu'elle tombe, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16. Euro au 732-16. Mais tout de suite, on revient donc sur France-Belgique. C'était quasiment ça, quasiment.
Juste un petit jour, on ira faire
la fiesta, la fiesta.
Avec Koundé dans la surnavation, Koundé qui va s'entrer, il n'y a personne. Thuram. Oh, aïe, 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 aïe. À quelques centimètres à gauche.
Relancez le vélo.
Allez, tout seul, allez, 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 le décalage. Pourquoi il frappe pas? Griezmann qui glisse sous le ballon.
Bon, chez Jules Koundé, que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est homme du match. Colo, on n'en parle pas, qui est buteur. Donc...
Le pivot, la frappe, et le but. Le but de Colo Muani. 5e
but. Non, mais ce sera peut-être Vertonghen contre son camp.
Mais non, c'est pas Vertonghen contre son camp. Regarde, Colo Muani.
Si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne.
Il veut quoi? Il veut gagner tous les jours 4-0. Il faut que vous soyez avec nous un peu.
Jusqu'au petit jour, on ira faire
la fiesta, la fiesta.
C'était pas vraiment la fiesta hier, hein, de France-Belgique. Eric, on était ensemble sur le match. C'était pas dingue, hein, niveau spectacle. Mais en même temps, est-ce qu'il faut pas arrêter d'attendre ça, ce spectacle avec ces Bleus, surtout dans ces matchs de qualif? Parce qu'on passe finalement, vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Direction Paderborn pour retrouver Loïc Braillet qui suit les Bleus au quotidien. Salut Loïc.
Oui, salut tout le monde en direct de l'entraînement avec donc les remplaçants qui sont sur la pelouse.
Ah, toujours contre la réserve de Paderborn?
Non, là ils sont juste entre eux, là c'est fini. Ouais. Place à la récup pour les titulaires bien sûr.
Très bien. Alors ces critiques sur le jeu, sur le spectacle sont arrivées aux oreilles des joueurs de l'équipe de France, ils en ont parlé hier.
Oui, alors on a la sensation qu'ils ont quand même totalement intégré la philosophie de Didier Deschamps, qui n'a rien de nouveau bien sûr, mais les résultats, rien que les résultats. Antoine Griezmann, pourtant l'un des joueurs les plus décevants hier, a vivement réagi au micro de nos confrères de beIN Sport, qui le titille un petit peu sur le petit score d'hier. Il a répondu « Faites pas chier avec ce petit score, on est en quart de finale ». Alors un peu plus tard, il s'est expliqué un peu plus longuement en disant qu'il ne faut pas chercher la petite bête. « On a besoin de vous aussi, vous les médias, arrêtez de chercher des débats partout », nous a-t-il dit. Adrien Rabiot a même hier parlé de match parfait en mettant en avant la performance défensive et que la performance défensive, comme si les critiques sur le jeu n'avaient finalement aucun sens pour lui. On sent un côté, vous nous critiquez mais on s'en fout, on va continuer comme ça. Et on a senti aussi chez Didier Deschamps, qui était même un peu provocateur dans ses propos en conférence de presse d'après match, un gros soulagement quand même après cette victoire. La veille, il était un petit peu agité en conférence de presse, on sentait que cette inefficacité le travaillait quand même. Donc voilà, dans leur esprit, il semble certain que de toute façon, les résultats finiront par éteindre les critiques, quand bien même le contenu resterait décevant comme hier.
Merci Loïc. Alors oui, les résultats normalement effacent tout, Eric. C'est ce qu'on se dit à chaque grande compète avec l'équipe de France. Est-ce que là, quand même, on n'a pas franchi un palier supplémentaire ?
Alors là, il va falloir que tu dises quel Eric. Donc, un c'est Rico et l'autre c'est Eric, si tu veux, qu'on s'en sorte. Parce que là, sinon,
il y a celui qui a réussi dans son après-carrière de foot. Celui qui fait des blagues sur RMC depuis 15 ans.
Et ben donc, le comico ou le professionnel ?
Et ben toi,
le professionnel, peut-être, non ? Donc, c'est quoi la question, du coup ? Parce que excuse-moi.
En gros, est-ce que là, au niveau du spectacle, on n'a pas franchi un palier ? Enfin, dans l'absence de spectacle, je veux bien que les résultats emportent tout dans ces grandes compètes, mais là, on a vu hier, c'est un niveau supplémentaire encore, non ?
Oui, mais regarde, hier, on en a parlé avant le match. Souvent, ce qui nous sauvait ces dernières années... Bon, on sait, hein, Didier, que ce soit culturellement, voire même par plaisir, c'est-à-dire c'était un milieu défensif, on a joué ensemble, que ce soit en club ou en équipe de France, joueur de devoir qui... pour qui, et je faisais partie de ces joueurs-là aussi, c'est-à-dire qu'on prenait notre plaisir dans la manière dont on embrouillait l'adversaire, voire qu'on l'empêchait de marquer, et ensuite on avait des talents qui nous faisaient gagner les matchs. Alors en plus il est allé en Italie, avec une culture tactique supérieure à ce qu'on a connu ici, donc on prenait le plaisir dans la victoire. Voilà, donc il y a plein de joueurs qui, quand ils passent entraîneur, soit ils font carrément l'inverse, soit ils restent dans leur schéma ou dans ce qu'ils ont connu ou dans ce qu'ils ont aimé faire. Et pour Didier, et ça lui a réussi pas mal, hein, que je sache en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est on est équilibré, on est solide, on est difficile à bouger, on est même vaillant, parce que ce qu'on a fait contre l'Autriche, je pense que ça a marqué les esprits des adversaires, et je pense que, et on l'a vu les Belges hier soir, hein, les mecs se chient dessus de jouer contre nous. Voilà, ils n'ont pas envie de venir, ils n'ont pas envie d'y venir. Donc, et ensuite, ben, le talent fait la différence. Ne rêvons pas, ça a souvent été le cas depuis que Didier est là. Voilà, sauf que nos talents... Ben, ils ne sont pas en forme. Et ben, du coup, quand nos talents ne sont pas en forme, c'est-à-dire les talents, c'est les talents entre guillemets, les joueurs susceptibles de faire la différence ou de faire de grosses différences. Mbappé et Griezmann, ça a souvent été le cas en équipe de France, ben, ils ne sont pas en forme pour le moment. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à regarder. Mais c'est toujours pareil, quand tu joues comme ça, quand tu gagnes à la fin, c'est toi qui as raison. Quoi qu'il arrive, alors il faut pas. Et d'ailleurs, la joie de Didier à la fin du match et des joueurs était significatif. C'est-à-dire qu'en jouant comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'ils vont se faire tailler derrière. Mais si ça va au bout. Et les Portugais l'avaient fait en 2016. Hein. Les Portugais, Santos, rappelle-toi, hein, pays de football, ouais. Pays de génie du football, pays qui aime les beaux joueurs, tout ce que tu veux, qui a souvent bien joué, qui n'a jamais rien gagné. Mais lui, il a dit, cette année...
qu'on arrête de se plaindre, en fait, en résumé.
Ben, nous, le problème, c'est qu'on a été mal habitués, deux fois champion du monde, et on a des joueurs merveilleux sur le terrain, notamment au niveau offensif. Donc, on attend toujours plus. Mais moi, je te dis la vérité, si ça va au bout comme ça, je dirais bravo, monsieur Deschamps. Mmh. Voilà.
Bon, Jean-Michel, il faut qu'on arrête de parler de spectacle, d'attendre du spectacle de cette équipe.
Oui, mais le public et les joueurs, le public et l'équipe en elle-même, le staff, n'ont pas les mêmes obligations et n'ont pas les mêmes raisons de se jouir. de se réjouir, pardon, de se jouir.
Oui,
de se réjouir.
Oui aussi, ça peut être une forme de jouissance. Hein.
C'est ta présence qui m'a fait déraper, Eric, parce que je sais que tu es coutumier du fait. Simplement, ils ont raison parce qu'ils gagnent, et le public a raison de ne pas être satisfait parce qu'il ne voit pas grand-chose. Et heureusement qu'une rotule passée par là hier, celle de Vertonghen, pour dévier la frappe de Colomouani qui partait en corner. Voilà. Donc, ne cherchons pas à rassembler deux entités que tout oppose, les joueurs et le staff, les résultats, le public, le spectacle. Eh bien, ce serait mieux s'il y avait les deux, mais tous les deux ont raison. Les joueurs et le staff ont raison parce qu'ils gagnent, et le public a raison parce qu'il demande davantage de spectacles.
Oui, mais Jean-Michel, même les fois d'avant, il y avait quand même un peu de quoi se réjouir. En 2018, on met 4 buts à l'Argentine, on met 4 buts à la Croatie. Enfin, ce n'était pas les 4 matchs qu'on vient d'enchaîner, là, quand même.
J'entends bien. Ce qui a réuni à un moment ou à un autre l'équipe de France, c'est ce dont tu as parlé. Là, je n'en vois pas le moindre prémisse. Ce que j'ai vu hier m'inquiète. Ce que j'ai vu hier sur les... Et même si, quand Griezmann dit exactement le contraire de ce qu'il a dit avant la compétition, c'est pas grave. Mais si hier, Griezmann, tel qu'il a joué, a pris plaisir, ah ben écoute, tant mieux pour lui. Hein.
Sur le côté droit. Ouais.
Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment pris plaisir à l'annonce de son positionnement et au déroulement de la partie. Voilà. Mais il y a des prérogatives qui sont importantes. Il y a des obligations qui sont importantes. Et à la fin du match, devant les micros, Griezmann a dit « C'est pas grave, on a fait le boulot, on a été très bon et on a gagné. » Et qu'est-ce que tu veux dire à part ça? Si ce n'est que lui dire que bah, vous dites le contraire de ce que vous avez dit il y a 15 jours. Mais c'est pas grave. Que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais moi, je pense que là, pour le moment, et on le voit dans les réactions du public, hein, le public n'adhère pas à cette équipe.
Exactement. Les audiences, en plus, ne sont pas extraordinaires. Alors,
mais l'équipe a raison puisqu'elle gagne.
Oui, mais après, il faudra voir jusqu'à quand. Effectivement, si tu vas jusqu'au bout comme ça, ils auront raison. Oui.
Non, mais vas-y, Eric, pardon.
Non, mais moi, on parle de spectacle. Je crois qu'il faut qu'on s'entende déjà sur ce qu'on attend comme spectacle. Le spectacle, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe qui se désorganise parce qu'elle est très offensive. Souvent, c'est le cas. Pour qu'une équipe provoque du spectacle, il faut à un moment donné que l'équipe elle soit capable de dépasser ses fonctions, de se déséquilibrer à un moment du jeu, d'accepter ce déséquilibre aussi. Et ça, c'est vrai que ça, j'en reviens à ce qu'a dit Eric.
Pour le coup, Didier Deschamps est à l'opposé de ça.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ADN de Didier. Didier a envie d'avoir une équipe qui domine au milieu de terrain. C'est une des choses qui est importante pour lui. Quelle est la maîtrise? Qu'elle ne soit pas en difficulté quand elle perd le ballon. Donc, à partir de là, il ne va pas demander à ce que l'équipe se déséquilibre. Donc, et c'est vrai qu'il y a des équipes, il y a des entraîneurs qui peuvent accepter ce déséquilibre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en soi ou qu'on n'a pas en soi. Donc, c'est vrai qu'à Didier, c'est difficile de lui faire ce procès-là, alors qu'on sait qu'il a toujours été comme ça et que pour lui, ce qui est important, c'est effectivement cette capacité. Moi, ce que j'ai aimé quand même, parce qu'il faut aussi reconnaître des choses, moi, je vois le 11 de départ des Belges. J'ai dit « Waouh, ah ouais !»
Ah, ouais, offensivement,
qui est offensive. C'est une équipe qui va jouer, c'est une équipe qui va essayer de nous poser des problèmes. Mais je suis désolé, moi j'ai pas vu les Belges sortir pendant pratiquement une heure de leurs 35 mètres. Et dès qu'ils ressortaient le ballon, ils le perdaient tout de suite. Donc il faut quand même reconnaître ça à l'équipe de France, qu'elle a été capable sur ce match-là de priver complètement de ballon cette équipe belge qui avait mis des joueurs offensifs. Parce que quand on voit deux milieux de terrain seulement avec en plus dans les deux Kevin De Bruyne, là, tu te dis waouh, c'est une équipe avec les joueurs de côté, avec les deux attaquants. On connaît Openda, on l'a connu dans le championnat de France, avec sa vitesse, tout ça. Lukaku qui peut être un point d'appui.
Oui, mais Eric, on est d'accord que c'était une grande Belgique, séduisante.
Ben, ça a pas été
et on s'est
Belgique
mis au niveau de cette équipe moyenne.
Ça n'a pas été l'équipe grande Belgique parce que l'équipe de France l'a complètement étouffé. Il faut quand même le dire. Alors ils ont eu 2-3 quand même fulgurances sur des contre-attaques et il y a eu ces frappes en fin de match. Mais globalement, c'est une équipe. Moi, j'ai lu ce matin dans la presse que la presse belge fustigeait le jeu défensif de l'équipe de France. Bah, alors, mais, je sais pas, mais
est-ce qu'ils ont vu
la Belgique
Oui, en fait.
À un moment donné,
ils pouvaient le faire en 2018, pas hier.
Ouais. Donc, si tu veux, moi sur le match hier, j'ai vu une équipe de France qui a essayé de dominer, qui n'a pas trouvé les solutions pour être effectivement très, flamboyante. Parce qu'à un moment donné, pour être flamboyante, ben, il faut réussir les dernières passes, réussir le dernier geste. Il y a eu deux, trois situations.
Et réussir les dernières frappes aussi, de temps en temps.
On est d'accord, c'est ça, c'est les derniers, des derniers gestes. Donc on a vu cette tête de Thuram qui aurait pu prendre la lucarne et puis ça aurait été un beau but, ça aurait peut-être effectivement pu débrider ce match. Ça n'a pas été le cas. Après, ça a été un match effectivement fermé avec une équipe de France qui a été solide. Et voilà, donc il faut quand même aussi lui reconnaître ça quelque part. Après, voilà, est-ce qu'on attend que l'équipe de France marque 4 buts pour dire qu'elle joue super bien? Ça a été le cas dans des matchs. Et attention, ça peut être le cas sur le prochain ou sur celui d'après. Parce qu'un match et les histoires de match, elles sont tout le temps différentes. Et contre le Portugal, peut-être qu'on aura une équipe qui jouera plus, qui se découvrira un peu plus. Et que du coup, nous, on aura peut-être aussi plus de possibilités à développer des choses qui sont un peu plus intéressantes. Quoi.
Faut-il arrêter d'attendre du spectacle avec ces Bleus? On va donner la parole à Gauthier dans une seconde. Mais on retourne sur le match en direct. Roumanie-Pays-Bas, Florent Germain, la domination est roumaine. Hein.
Exactement, 0-0, grosse pression des Roumains qui sont techniques, véloces, qui tentent leur chance aussi. On vient de voir à l'instant une belle frappe de Denis Mann, le joueur de Parme, pied gauche, frappe puissante qui passe au-dessus, juste au-dessus de la barre transversale de Verbruggen. On voit très très peu les Néerlandais. Alors il y a de la qualité évidemment technique, Xavi Simons, Memphis Depay, etc., qui demandent beaucoup de ballons à la pointe de l'attaque. L'ambiance dans les tribunes est roumaine, la domination est également de leur côté. 0-0, bientôt 16 minutes de jeu, on est ici à Munich.
On accueille Gauthier dans l'intégrale Euro sur RMC à 18h15 pour parler des Bleus. Salut Gauthier. Il est où Gauthier? Il arrive?
Il est là. Comment ça va Gauthier? Ça va et vous?
Bah écoute, très bien. Est-ce que t'attends encore du spectacle avec cette équipe de France?
Alors je voulais juste commencer par une grande félicitation pour le coach Roy pour sa saison. Je voulais dire quand même de base, je voulais dire. Et après, ben, sur l'équipe de France, je me demande encore comment on se pose la question. Hein.
Pourquoi?
On en parle tout le temps.
Ah oui.
C'est tout le temps les mêmes.
Mais oui, il a raison.
Je vous écoute tous les jours et je suis commercial, donc je suis tout le temps en voiture. J'écoute tout le temps soit le Moscato, soit Rotten. Et tout le temps, on vous entend dire ça, on vous entend dire ça. On s'y est habitué, on le sait. Si ça gagne comme ça, bravo des chances. Si
mais là, devant le match, t'as aucun ennui, toi. Hier soir, t'as eu aucun ennui.
Bah. Moi, je ne suis pas objectif parce que c'est mon équipe, l'équipe de France. Comme quand je regarde Bordeaux, je ne peux pas m'ennuyer. J'ai toujours la crainte que s'il y a la contre-attaque...
Décidément, tu es drôlement fait, toi, Gauthier. Gauthier, tu es fait de quel bon, Gauthier.
C'est sûr que quand tu regardes de Bordeaux toute l'année, tu es content de voir l'équipe de France. Hein.
Il y a eu des matchs qui n'étaient pas dégueu. L'année dernière, on a failli remonter. Cette année,
c'est vrai, c'est vrai.
On a failli descendre, oui, cette année. C'est d'accord.
Non, mais là où tu as raison, c'est que ce débat, j'ai l'impression de le faire tous les deux ans. Alors plus ou moins fort, hein, parce qu'il y a eu une période où les critiques, alors que le jeu était meilleur que maintenant, étaient beaucoup plus fortes que maintenant. Sauf que les critiques ont été tellement fortes, c'est déjà en 2018, rappelle-toi, hein, en 2018, ça, c'est, à un moment donné, c'était virulent. Sauf qu'au bout, comme ça avait gagné, on avait tous un peu ravalé nos critiques et obligé de féliciter cette équipe de France-là. Et maintenant, du coup, on sait ce qu'elle est capable de faire. Donc, on est toujours un peu sur la retenue. C'est-à-dire que les critiques, en réalité, en ce moment, c'est juste... On a une super génération. C'est dommage. On pourrait faire mieux. On ne fait pas mieux. Mais on a pris le parti, comme toi. Tu regardes les matchs. Tu as pris le parti parce que tu sais qu'il y a des grandes chances qu'on gagne les matchs, qu'on embrouille l'adversaire et peut-être même qu'on aille au bout. Donc, c'est pour ça que les critiques sont moins importantes aujourd'hui. Mais en effet, ce débat, il est fait tous les deux ans. Et on a... On, on, presque on fait semblant de redécouvrir ça, tu vois.
J'ai l'impression mais c'est moins le cas au Qatar à la Coupe du Monde. J'ai l'impression que sur d'autres compétitions,
c'est. Mais là, je te l'ai dit, Jean-Louis. C'est juste que.
Là, on a quand même pas mis un but.
Non, mais c'est juste que nos deux joueurs plus.
C'est contre son camp.
Ils sont pas là, c'est tout.
Notre meilleur buteur, c'est contre son camp.
Oui,
Rico, non, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler.
Oui, aujourd'hui, c'est comme ça.
D'accord. Bon. Rico. Attends, Gauthier, Jean-Michel qui veut. Pardon. C'est la légende.
Simplement. Bon, alors, Papy Piche, tu peux m'appeler, comme tu disais, Julien Cazard.
Seulement. La différence, c'est que de temps en temps, dans les périodes où l'équipe de France avait des résultats. Mais ne faisait pas, n'était pas flamboyante. Ou on ne va pas lui demander d'être flamboyante, d'être agréable à regarder. Voilà, tiens simplement. Il y a eu des périodes où, de temps en temps, il y avait du bas et du haut. De temps en temps, on se réjouissait parce qu'on voyait des buts, parce qu'on voyait des actions, parce qu'on voyait de la vitesse, parce qu'on voyait des appels de balles, quand on voyait des frappes.
Oh, le but néerlandais magnifique ! La frappe surpuissante ! Cody Gakpo qui trouve le petit filet dans un angle fermé et le gardien roumain qui est battu. Quelle frappe de Cody Gakpo ! Il est parti tout seul côté gauche, il est venu fixer et à l'entrée de la surface, il arme, il bat le gardien roumain, Florin Nitsa et les Pays-Bas qui prennent l'avantage. C'est pas forcément logique vu le début de rencontre, mais quel but magnifique de la part du joueur de Liverpool, Cody Gakpo, qui ouvre le score 1-0 pour les Pays-Bas.
On va rester un peu sur ce but avant de revenir sur l'équipe de France. Gakpo pour le coup qui fait un bon enchaînement. C'est sans doute le meilleur néerlandais depuis le début de l'Euro. Hein. Il avait déjà marqué contre l'Autriche.
Angle fermé, il la touche légèrement, le gardien roumain.
Regarde si elle n'est pas détournée quand même. Non, c'est passé assez. Non, c'est passé assez. Je déconne.
Non, c'est un vrai beau but. Mais par contre, j'avais. Le ralenti nous permet de voir que le gardien roumain, il est loin d'être exempt de tout reproche. Parce qu'il touche ce ballon.
Il laisse un portillon. Au lieu de laisser un portillon, il laisse une grande baie vitrée.
Frappe puissante, angle fermé. Là, la réponse peut-être de Yanis Hadji. Le fils du prodige roumain qui tente sa chance à l'entrée de la surface à côté de la cage du gardien néerlandais Bart Verbruggen. 1-0 pour les Pays-Bas, 20 minutes de jeu, un petit peu plus ici à Munich.
Jean-Michel, tu as fini ta démonstration ou je peux te poser une question?
Non, simplement pour dire que à ces périodes où il y avait du mieux et du moins bien, là ça fait quand même 4 matchs. C'est...
Oui, mais Jean-Michel, je le répète.
Ah, c'est pénible quand même. Oui,
oui mais je le répète, nos joueurs qui nous égayaient les matchs ou qui nous mettaient la flamme ou le truc, eh ben, ils ne sont pas là. Le pauvre Griezmann, il est très, très moyen. Et Mbappé aussi. Parce que
un minimum quand même.
Oui. Oui, non, mais alors après, ça c'est oui. Mais si vous voulez, il faudrait faire un débat général. Parce que... Regarde un peu les autres équipes. On regarde les Pays-Bas là. Ne me dis pas que sur le terrain il n'y a pas des joueurs pour faire mieux que ce que font les Pays-Bas depuis le début de la compétition quand même. Ouais. Eh bien regarde ce que ça donne. Ça va à deux à l'heure. S'il n'y a pas d'appel,
les Pays-Bas. Quand
voilà.
Même.
Eh bien oui, non mais alors l'Angleterre. Allez, l'Angleterre et même
ils sont fatigués par leur championnat.
Ah voilà. Donc
les Espagnols.
Ils sont énormes.
Non, les Espagnols pour le moment.
Ils sont énormes.
J'attends de les voir contre.
C'est l'équipe la plus séduisante.
Ah oui, c'est après, ça, voilà, c'est ça.
Après,
c'est
il faudra voir contre une équipe où il y aura du répondant devant.
Exactement. Je les attends de les voir contre nous.
Est-ce que je peux poser à notre coach meilleur entraîneur
du monde.
Eric Dimeco, tu comprends que c'est pas toi.
Ah non, là j'ai compris que c'est pas moi. Hein. Là, dès qu'il a dit meilleur dans sa phrase, j'ai compris que c'était pas moi qui s'adressait.
M'a dit Jean-Michel.
Hier, il y a eu. Une frappe sur 10 de cadré et 9 frappes qui sont parties dans les nuages pour des raisons que j'ai analysé moi tout seul devant mon écran de télé. Est-ce que ce matin, sur ces gars qui ont mal frappé, parce qu'ils ont mal frappé, c'est pas parce qu'ils ont frappé fort.
Tu vas mettre en difficulté
fort,
en disant que les Smelou auraient marqué
parce
hier, Jean-Michel.
Parce qu'ils ont mal frappé, ils ont frappé fort, mais mal frappé. Est-ce qu'à un moment ou un autre, dans ton staff, il y a quelqu'un qui passe en lui disant, là, sur ta frappe, il y avait ceci qui n'allait pas, il y avait ceci qui n'allait pas.
C'est pas les stages marqués à Brest quand même.
Je pose la question. Je pose la question.
Si
de temps en temps, sur le plan technique, il n'essaie pas d'améliorer une erreur que fait machinalement un footballeur professionnel. Il se pose plus de questions. Un footballeur professionnel, quand il fait une passe ou quand il frappe, il le fait machinalement.
C'est instinctif, normalement.
C'est instinctif
après,
un peu.
Après, on est bien d'accord, et tu le sais, Jean-Michel, que la frappe de balle, c'est un geste technique quand même. Et qu'à un moment donné,
justement,
la frappe de balle,
elle est souvent
révélateur de la forme aussi. Et c'est vrai que, Eric, tu as été joueur, Jean-Michel, bien sûr, joueur également. Et je pense que vous rappeliez que quand vous étiez très en forme, vous aviez des frappes de balle qui étaient soudaines, qui partaient bien, et qu'inversement, des fois, quand c'était plus compliqué, la frappe de balle, elle ne partait pas, elle était un petit peu... Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu avec les Français aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est du fait qu'effectivement, il y a un peu de fatigue, un petit la saison, tout ça, bon, peut-être. Mais il est évident que sur les frappes de balle, on est en grande difficulté. Et c'est notamment pour ça que, parce qu'on n'est pas bon dans les derniers gestes, qu'on est stigmatisé sur le fait qu'on ne joue pas bien. Parce qu'effectivement, si on regarde les expected goals sur la compétition,
alors on est énorme.
Persuadé qu'on est certainement une des équipes qui a le plus expected goals
et qui a marqué
le
moins de
buts. Ça ne veut rien dire, ça.
Et qui a marqué le moins de buts.
On était à 5,5-6 sur la phase de poule.
Pour répondre à ta question, moi, quand je vois, par exemple, une ou deux frappes de Tchouaméni, si aujourd'hui je devais aller lui parler, parce qu'il y en a une qu'il a bien faite, c'était sa frappe qui était un peu enroulée, tout ça.
Ouais.
Mais les deux autres frappes, tu sens qu'il n'est pas sur ses appuis, il fait des grands appuis avant de frapper.
Il est
un petit peu précipité parce que quelque part, il a.
Tu ne veux pas être éducateur au stage Larquet, Eric?
Oui, non, mais bien sûr, mais avec plaisir, Michel. Donc si tu veux.
Peut-être que tu gagneras plus qu'Abrest en faisant le stage
Jean-Michel. On le sent, ça, sur sa frappe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi.
Le pied d'appui, il est loin.
Quand tu as la position, tu as la possibilité d'avoir une bonne situation, tu as une espèce d'adrénaline qui monte en toi quand tu es joueur, et que quelque part, il faut être capable de gérer ses émotions et cette adrénaline-là, et que lui, peut-être aujourd'hui, si Didier passe à côté de lui, ou un gars de l'équipe de France, du staff, va lui dire: tiens, regarde un petit peu les situations où ta frappe s'envole. Tes appuis, au moment donné où tu prends effectivement ton élan et tout ça, ils ne sont pas bons parce que tu ne t'ajustes pas, parce que tu as effectivement... Donc, ça, c'est forcément des choses que tu peux parler avec tes joueurs, même si, au fond d'eux, je pense qu'ils le savent.
Voilà, mais j'ai la réponse. Qu'ils le sachent, c'est une chose, qu'on leur dise que sur ce match-là, il avait son pied d'appui qui était 50 cm derrière la balle et que forcément le ballon allait partir dans le tableau d'affichage, c'est bon de le dire de temps en temps.
Oui. Bonne question, bonne réponse. On n'est pas tout le temps habitué. Oui, Eric, vas-y.
Non, mais moi je voulais élever les débats.
Élevons le débat, Eric.
Attends, est-ce que tu peux élever le débat dans une seconde?
Oui, on peut même jamais l'élever d'ailleurs. Ça m'arrangerait si tu veux, franchement. Si tu fais 2 minutes, j'ai oublié, on ne l'élève plus.
Mais non, tu ne vas pas oublier. Juste, on remercie Gauthier. Est-ce que tu avais un mot à ajouter, Gauthier, au 32-16?
Non, j'avais juste pour dire, avant la compétition, on parlait beaucoup de la défense, des incertitudes, des ceci, de cela. On peut au moins rendre hommage à ça, qu'on est sur un but en 4 matchs, qui sont archi solides. En tant que Bordelais, je vais quand même passer un gros big-up au Koundé, qui est tout le temps taillé et qui fait un sacré euro.
Ah, donc, c'est ce qu'a dit Didier Deschamps hier, effectivement. Ouais.
Voilà, si on peut au moins se réjouir de ça, d'avoir une défense costaud, un Saliban patron qu'on attendait depuis un moment, ou pas Mécano aussi, alors qu'on avait taqué de doute depuis le Bayern. Bon, voilà.
On a le meilleur gardien du monde aussi.
Aussi, exactement.
On peut toujours voir les choses négatives, mais on peut aussi voir les choses positives. Quoi.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Bah, j'espère qu'on en parlera d'ailleurs.
Merci, Gauthier. À bientôt, Gauthier.
Merci à vous, ciao.
Oui, on parlera de ce que tu veux, Eric, de toute façon. On est à ta disposition.
Et allez, Bordeaux et Gauthier.
Oui, et courage. Et
courage. Courage, allez, courage.
Roumanie-Pays-Bas, Florent Germain.
1-0 pour les Pays-Bas depuis la 20e. Le but et la frappe puissante de Cody Gakpo. On joue donc depuis 27 minutes et les Néerlandais multiplient les corners. Il y a eu une belle tête de De Vrij à l'instant même, avec désormais Memphis Depay qui tire ce corner sortant. Ce coup-ci, c'est pas très bien négocié, pourtant ils sont très dangereux sur ces phases de corner, souvent bien tirées par l'ancien joueur lyonnais Memphis Depay. 28e, toujours grosse ambiance, grosse intensité mise par les Roumains, mais ils ont été refroidis forcément par le but de Cody Gakpo à la 20e. 1-0 pour les Pays-Bas.
Didier Deschamps a-t-il assuré sa place jusqu'en 2026 avec cette victoire hier? C'est le débat dans une seconde. 32-16, on vous attend dans l'intégrale Euro sur RMC.
RMC Intégrale Euro.
Jean-Louis Tour.
avec Eric Dimeco, Captain Larquet et Eric Roy ce soir dans l'intégrale Euro jusqu'à 20h. On suit l'avant-dernier huitième de finale de la compétition. Avant de revenir sur Didier Deschamps dans une seconde, Roumanie-Pays-Bas, Munich, Florent Germain.
La demi-heure de jeu ici, effectivement, à Munich. 1-0 pour les Pays-Bas depuis la 20e. Très beau but de Cody Gakpo, même si le gardien roumain Florin Nitsa touche le ballon. Il est surpris et peut-être pas forcément serein dans cet angle fermé. Et depuis, le match a changé. Les Roumains essayent de presser, mais il y a une qualité technique du côté des Pays-Bas qui est largement supérieure. Ils font tourner le ballon. Et on est plus proche du 2-0 d'ailleurs que de l'égalisation. 31e, 1-0 pour les Pays-Bas.
Merci Flo, tu interviens bien sûr quand tu veux. Alors Didier Deschamps et son avenir. On pose la question parce que lorsqu'on l'a aperçu au coup de sifflet final, il était vraiment
soulagé,
c'est le mot. J'ai cherché un peu plus fort encore que soulagé parce que c'était impressionnant de le voir aussi heureux pour un huitième de finale alors qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais c'était un match bascule, comme il l'a dit après le match, parce que bah, voilà, c'est une nouvelle compétition. On démarre peut-être une épopée en passant ce huitième de finale, et peut-être aussi parce que s'il y avait eu élimination contre la Belgique,
bah, il y avait le débat.
Il y avait le débat pour son avenir. Même s'il est sous contrat jusqu'en 2026, Didier Deschamps, avec donc 2 ans supplémentaires, on sait aussi qu'il y a de nouvelles élections à la Fédé, donc ça aurait pu peut-être rebattre les cartes quant à son avenir. Là, c'est plus compliqué, même si l'objectif n'est pas atteint. L'objectif fixé, c'était la demi-finale, et Philippe Diallo a déjà dit que même si c'était une élimination en quart, il était probable qu'il continue avec Didier Deschamps. D'ailleurs, il l'a redit dans un entretien RMC Sport aujourd'hui pour expliquer que leur relation était très fluide, peut-être pas autant qu'avec Noël Le Graët à l'époque, mais qu'elle se passait très bien. Et donc, il a défendu ce que fait le staff et Didier Deschamps sur 7 euros. Jean-Michel, est-ce que selon toi, il a garanti sa place jusqu'à la Coupe du Monde sans aucun débat ?
De toute façon, je pense que les débats, il est tellement impliqué dans cette équipe de France, il est tellement puissant, Didier, bien que de temps en temps, il courbe le dos, il courbe les chines, on n'a pas l'impression, mais devant les critiques, mais il est tellement fort au sein de la Fédération française de football que je pense que d'une manière générale, enfin, et que d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui prendra la décision, vraiment. Je ne vois pas un président, quel qu'il soit, et pas plus Philippe Diallo qu'un autre, prendre le risque de se mettre Didier Deschamps à dos si Didier Deschamps ne le veut pas. S'il souhaite partir, Didier, à l'occasion, parce que pour différentes raisons, il partira. Et s'il souhaite aller jusqu'au bout de son contrat, je pense qu'il ira au bout de son contrat. Personne, aujourd'hui, dans la fédération, n'a la puissance et la force et le charisme de Didier Deschamps. Donc chacun reste sur ses positions et attend que ça se passe.
Oui, alors donc l'autre question, pour aller dans ton sens, c'est est-ce que lui va pas être lassé au bout d'un moment ?
Ça, il faut lui demander. Ça,
oui, bien sûr, mais bah, vous le connaissez bien quand même tous. Hein, ça a été ton partenaire, Eric Dimeco. Les critiques sur le jeu, etc. Il a montré qu'il était solide depuis longtemps, mais peut-être qu'à un moment donné, ça peut aussi
Ça revient à ce qu'a dit Jean-Michel. C'était qu'à un moment donné, c'est peut-être lui,
c'est lui qui va choisir
l'euro, et même peut-être même s'il gagne, qui dira. Moi, je souhaite peut-être partir sur une bonne note. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que soulagement, bien sûr, mais je pense surtout soulagement parce que je pense qu'il avait beaucoup d'interrogations avant ce match-là aussi. Parce que c'est vrai que ses premiers matchs de poule n'ont pas défini quelque chose de complètement clair, quoi, je pense. Et pour lui, pour nous, bien sûr, en tant que. Mais même pour lui, en étant à l'intérieur, je pense qu'il y avait des doutes. On sent qu'il a du mal, si tu veux, à trancher entre, par exemple, Tchouaméni et Kanté. Ouais. Et que du coup, il les met tous ensemble. Ouais. Et qu'on voit bien qu'au milieu de terrain, Kanté, c'est ouais. quand même un joueur de position. Tchouaméni, c'est un joueur de position aussi. Rabiot est un joueur, bon, ok, qui peut être un peu plus offensif, mais on sent bien que c'est un milieu de terrain qui, quelque part, et bien sûr, est très fort quand le ballon est perdu, parce que effectivement, ils sont capables d'aller au contre-pressing et tout ça. Mais après, dans l'animation, on sent que c'est un peu compliqué aussi. Donc, offensive, c'est pour ça que
Kanté, cette équipe,
a du mal. Oui, mais parce qu'il a contre-emploi. Kanté, il va pas faire des choses, et notamment. Et on l'a vu très bon.
Quand il était devant la défense.
Donc forcément, à un moment donné, moi, je peux comprendre qu'il y a cette volonté-là d'avoir les deux parce que du coup, bah, effectivement, tu es très, très fort. Mais si tu veux effectivement avoir un petit peu plus de jeu, un petit peu plus d'animation, tu as besoin d'avoir des joueurs qui soient capables offensivement de produire plus de choses. Donc je pense que le soulagement, ce n'est pas parce qu'il a sécurisé sa place. Je ne pense pas ça. Je pense que le soulagement, c'était vraiment qu'il avait besoin quelque part que la qualification, elle allait valider ses choix malgré tout. Et ça, c'est toujours important pour un entraîneur. Il ne faut pas oublier que Didier, quand même, c'est un monstre. C'est un tueur de compétition quand même. C'est quelqu'un qui a tellement gagné, c'est son ADN, c'est ça, c'est quand même la victoire, c'est quand même voilà, c'est son moteur. Donc quelque part, de gagner 1-0, je peux vous dire que je pense sincèrement qu'il est très content de ça, quoi. Je veux dire.
Oui, mais dans sa joie d'hier soir, Eric, il y a plus que ça pour moi, et c'est là où le débat est intéressant. C'est que je pense que le départ de Noël Le Graët ne l'a pas fragilisé, mais par contre lui a donné moins d'assurance qu'il l'avait avant. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai, comme l'a dit Jean-Michel, c'est lui qui faisait ce qu'il voulait. C'était entériné, quoi qu'il arrive.
Eric, Rico,
oui, c'est toujours le cas.
Je m'occupe, enfin, je suis un peu informé. C'est toujours le cas. Rassure-toi. Ouais.
Alors. D'accord. Donc, c'est toujours le cas, sauf que...
On a vu comment il a renvoyé dans ses 22 le DTN, hein, son histoire.
Il savait hier soir que si ça se passait mal, vu ce qui s'est passé depuis le début de la compétition, il y aurait eu débat malgré tout. Même si il y aurait eu un débat, même voire très virulent. C'est-à-dire que il y en a quand même beaucoup qui attendent qu'il se plante comme ça en huitième de finale, de manière très, très moyenne, hein, parce que contre la Suisse, quand tu sors contre la Suisse, tu gagnes 3-1, tu as un scénario catastrophique. Oui. Mais là, tu sortais hier soir, par exemple, c'est-à-dire que le but qu'on met nous, ils le mettent eux, tu sors pareil. Là, derrière, il y aurait eu beaucoup de flingues qui auraient été sorties. Ah. Je pense que c'est pour ça que il y a plus que la joie d'hier soir, elle est supérieure au fait de c'est sportif, regardez ce que j'ai fait, ou vous allez voir, on va monter en puissance. Je pense que ça évite des journées difficiles à devoir se justifier ou à devoir se défendre.
Eric, tu penses que si jamais, je te dis une connerie, on perd 2-0 contre le Portugal le prochain match, il n'y aura pas de débat?
Ah ben oui, il y aura débat.
C'est pour ça que, pour répondre à la question de Jean-Louis, je ne pense pas qu'hier soir, le fait d'avoir gagné, moins ça fort, lui quand garantit... Même.
On perdra contre une autre équipe quand même. Le Portugal, il y a quand même des sacrés noms à chaque poste, un peu moins que cette Belgique vieillissante.
Oui, là, je pense qu'hier soir, franchement, les flingues auraient été sorties plus rapidement et de manière plus virulente que d'habitude.
On va voir ce qu'en pense Rachid au 32-16 dans une seconde, mais on retourne sur Roumanie-Pays-Bas. Le match a vraiment tourné en faveur des Pays-Bas.
On voit plus les Roumains attaquer, effectivement. 1-0 depuis la 20e et ce but de Cody Gakpo, il reste 8 minutes avant la mi-temps et les Roumains en plus vendent panique parce qu'ils ont perdu un de leurs joueurs dans un choc. C'est Vasile Mogos qui a été jugé KO par le médecin. C'était sous nos yeux parce qu'en plus la tribune de presse là, c'est un régal. On est vraiment tout près des bancs des deux équipes et c'est Rakovitsan qui est entré à sa place. Les Roumains, ils ont besoin de la mi-temps pour se poser. Ils n'ont pas les idées au clair depuis ce but de Cody Gakpo. 1-0 pour les Pays-Bas, 7 minutes avant la pause.
Deschamps a-t-il sécurisé sa place jusqu'en 2026? Rachid nous rejoint au 32-16 dans l'intégrale Euro sur RMC. Salut Rachid.
Salut à tous.
Salut Rachid.
Bon, Deschamps est là jusqu'en 2026?
Comme on dit chez nous, Inch'Allah que non.
Ah oui, d'accord.
Franchement, parce que bon, bah voilà, on est là, mais bon, ça va depuis 2012. Je regarde même plus. Hier, je joue au paddle pendant le match.
Ah oui,
parce que c'est bien de gagner. Ok, il est venu à Marseille en 2010. Je suis sorti de l'OM. On n'avait pas gagné depuis longtemps. Il nous fait gagner, mais bon, faut que ça dure un an. Après, on est là pour regarder un spectacle. Mais
c'est déjà bien de gagner, même un an. Hein, c'est déjà bien. Hein,
non, mais c'est ce que je dis, c'est déjà bien. Mais tu peux pas faire ça pendant des années. Au bout d'un moment, c'est un spectacle. Sinon, il n'y a plus personne qui vient. C'est une purge, les matchs. Une purge. T'as les meilleurs joueurs du monde. Enfin, je sais pas, moi, je rêve de voir un Genesio sélectionneur de l'équipe de France.
Oula.
Il a toujours bien fait jouer ses équipes. Bah,
moi, j'aurais rêvé de voir Eric Roy.
Avec du matos comme ça, mais obligé qu'on va se régaler. Là, c'est trop. Et ce qui se passe, alors je veux bien qu'il y en a qui ne soient pas en forme, de Mbappé, pas Mbappé, mais il n'y a pas que ça. quand, à partir du moment où, où tu dis à tes joueurs défense, 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 priorité à défense, bah bien sûr qu'après il n'y a pas de jeu. Bah bien sûr, tu prends aucun risque, il ne peut rien t'arriver. Hein. Zéro but depuis le début de la compétition, zéro.
Dans le jeu, ouais. Mais là où c'est vrai que c'est pour ça qu'on est un peu frustré. D'abord parce que on a des
attaquants.
On a des attaquants. Oui, mais on est sympa parce que. Tu sais, je le disais tout à l'heure. Je le dis. Non, non, mais non.
Mais non, parce qu'on connaît, les problématiques.
Mais non.
Franchement, c'est une
pure. Mais rappelle-toi en 2018. Le problème, c'est que quand tu tailles fort une équipe comme ça et que ça gagne au bout, tu passes quand même un peu pour un con, quand même. Tu vois. Et pour parce que on va tous défiler hein, si ça gagne. Hein. Donc tu es obligé quand avec le vécu de cette équipe-là et ce qu'elle a déjà fait. En compétition finale, tu es obligé, en étant à notre place, de dire attention les gars, parce que les équipes adverses vont détester jouer contre nous, on va tous les embrouiller et on peut aller au bout encore une fois en jouant comme ça. Donc tu es obligé d'être sur la réserve. Mais par contre, les critiques sur le jeu quand même, je ne sais pas si tu nous écoutes tous les jours ou si tu nous as écoutés hier, mais quand on s'ennuie, on le dit quand même, tu vois. Et on le dit d'autant plus que. Ben oui, on a certains des attaquants les plus convoités et appréciés d'Europe. C'est-à-dire que il y a plein de nations, et c'est pour ça aussi qu'on fait peur, qui envient la génération d'attaquants qu'on a et qui se demandent comment ça se fait que certains ne soient pas sur le terrain. Et ça, c'est frustrant. Et moi, ce qui me frustre, par exemple, puisque tu es supporter de l'OM, quand je vois Saliba, ce qu'il a fait l'année où il était à l'OM, bon, défensivement, on sait qu'il est très fort. Mais là où moi, il m'avait impressionné, c'est... Ses passes vers l'avant très rapide qui casse les lignes, ou même ses pénétrations, lui. C'est-à-dire que quand c'était bloqué, c'est-à-dire une équipe comme la Belgique d'hier soir, qui t'attend comme ça, où les mecs sont bien pris devant, eh ben, crac, hop, il faisait la différence en montant et truc. Mais là, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'a pas le droit. Je reste persuadé qu'il n'a pas le droit. Et ça, c'est frustrant, parce que ça apporte un plus malgré tout, quand tu as des mecs comme ça qui font déjà le premier décalage. Ça facilite le jeu des coéquipiers. Et oui, bien sûr qu'on est frustré. Sauf que on a payé cher pour le voir. Cette équipe-là, il y a des grandes chances qu'elle soit encore une fois au bout. Et les Portugais, tu sais quoi, les Portugais, je pense que les Portugais, là, ils vont faire des nuits blanches. Le coach portugais ne doit pas dormir.
Je ne suis pas d'accord avec l'analyse. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tu as raison, mais ça, c'est valable quand tu n'as rien gagné depuis des années. Là, on a une équipe de France, tout le monde a peur de nous, on a gagné des titres, on est deux fois champion du monde, on est champion d'Europe. Quand t'as rien gagné,
oui, mais Rachid, on a gagné. Non, mais Rachid, on a gagné en jouant presque comme ça tout le temps.
Ah non, pas tant que ça.
En 2018, c'était quand même mieux.
Oui, c'était meilleur.
Même.
C'était meilleur parce que tu avais.
Puis remplir, sérieusement.
Et le match très défensif, tu le fais contre la Belgique, qui était une autre Belgique quand même, avec d'autres arguments offensifs.
Vous entendez justement sur RMC dire oui, mais vous avez vu, le Portugal, c'est pas mieux. Le Portugal, ils font 78% de possession de balle. Ils jouent contre une équipe, ils sont 12 000 derrière. Franchement,
comme
le ballon, il a tourné. Ils ont galéré à marquer. Ils n'ont pas marqué d'ailleurs. Mais le ballon, il a tourné, etc., etc. Ils m'ont quand même fait une meilleure impression que l'équipe de France.
Par contre, Rachid, sur le quart de finale, t'écouterais RMC, t'iras pas jouer au paddle. Hein. Fais-moi plaisir.
Rachid,
j'ai juste une question.
J'ai une question, Rachid.
Tout le monde a une question. Eric, d'abord. Attends, Jean-Michel, Eric.
Non, moi, j'ai juste une question. Le Real Madrid, champion d'Europe, qu'est-ce que vous considérez de l'effectif, de la richesse, de la qualité, des talents de
cette équipe? C'est une équipe moyenne du Real Madrid par rapport aux autres équipes du Real Madrid.
Non, mais enfin, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de grands joueurs et tout ça. Est-ce que vous avez vu le Real Madrid contre Manchester City? Est-ce que vous avez vu le Real Madrid
ces
quelques matchs où ils se sont qualifiés, où ça a été très compliqué?
Oui, mais c'est une autre intensité, Eric, quand même. C'est
notre intensité. Mais ce que je veux dire, c'est que Carlo, quoi qu'il arrive, on peut considérer que dans son ADN et dans sa formation, ça reste un entraîneur qui est un petit peu comme Didier, quoi. C'est-à-dire que malgré tout, même s'il a des talents, c'est une équipe qui veut très bien organiser. C'est une équipe, et quelquefois le Real Madrid, et je me rappelle des débats notamment sur vos antennes, oui, dans l'after foot, qu'on parlait de pur du Real Madrid et qui se qualifiait quand même et qui à l'arrivée sont encore champions d'Europe.
Ouais,
donc ça veut dire qu'à un moment donné,
utiliser Eric, c'est quelquefois. C'est ça le mot.
Ouais,
je suis d'accord avec toi contre City. c'est un hold-up.
Ah, mais pas que contre que City, hein. Contre, alors, contre Jean, Leipzig, contre...
Jean-Michel avait une autre question.
Non, mais qui n'avait rien à voir avec le football. Tu as gagné hier au paddle?
En plus, non, hier j'ai perdu en plus.
Oh, mais ouais, ça, ouais, tu vois, le plaisir tu l'as pris dans la victoire de l'équipe de France.
Mais en plus, j'ai joué au paddle. Eric, il connaît, j'ai joué au paddle au Z5. Il y avait du monde sur les terrasses qui regardait le match. Il n'y avait même pas de vie. J'entendais même pas d'ambiance. Je me disais, mais c'est quoi ce match? Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de mouvement de. Donc pour regarder le match.
C'est parce qu'il n'y a pas Zizou dans le staff.
Bon, Rachid, sache que Bruno Genesio nous écoute. On le salue. Et il nous demande si tu es un ami de. Si vous vous connaissez, parce qu'il dit Rachid doit être un ami, c'est pas possible.
Ouais, c'est pas possible.
Non, je suis pas un ami, c'est juste que je suis lucide. Je suis lucide. Quand il était à Lyon, il faisait jouer son équipe, ça jouait bien, même si les Lyonnais, ils n'aimaient pas. Quand il était à Rennes, c'était l'une des meilleures équipes qui, sur le, à regarder, je me régalais. Et là, je pense qu'Ali, il va faire la même chose.
Regarde,
Rachid a raison, ça veut dire qu'il connaît bien le foot, tu vois, justement.
C'est ça. Merci Eric Rachid,
non,
en tout cas.
Non, Eric Roy, non, pas l'équipe.
On se comprend entre Marseillais.
Salut Rachid, à bientôt.
Ciao, bonne soirée,
ciao,
les gars.
Ciao, ciao.
Ah, il n'a pas cité Eric Roy, Jean-Michel, qu'est-ce que tu veux? Arrête de forcer.
Je voulais à tout prix qu'il ne connaît pas.
Suffisamment, on parle de Bruno.
On parle de Bruno, c'est bien. Moi, je trouve que j'adore Bruno, donc il a bien raison.
Alors,
non, mais après le parallèle.
C'est l'heure de gloire de Bruno.
Bruno Genesio a rajouté et Jérôme, il en pense quoi? Effectivement, il n'est pas là, Jérôme.
Ah ouais. Il a de l'humour. Non, mais tu sais, je me demande si, quand tu regardes ces compétitions, parce que. Alors, on va mettre l'Espagne de côté, grosse culture du jeu. Les jeunes des équipes nationales jouent comme l'équipe 1 et ça se perpétue. Et tu n'es pas surpris quand tu regardes l'Espagne, c'est plutôt agréable à regarder. Pour les autres, c'est souvent très décevant, hein, même les Allemands. Si vous vous souvenez, le dernier match des Allemands, offensivement, ils ont joué.
Contre la Suisse, ils ont énormément souffert.
Mais ils ont énormément souffert, mais même le match d'après, ils ont eu un joueur qui est hors norme, Moussiala, qui a plein de bourre. Et ça te change cette équipe là, mais c'est mieux que nous, mais c'est pas super. Et je suis en train de me demander si quand on regarde ces
Allemagne-Suisse,
non, il y a eu en poule, il y a eu l'Allemagne-Suisse sur le dernier match, et après il y a eu le match qualificatif
que l'Allemagne a égalisé.
Voilà que c'est
mais même le
8e, il est à un moment donné, il est difficile à regarder pour les Allemands. Ils ont dû se poser des questions, et donc je suis en train de me demander si ces compétitions d'équipe nationale en fin de saison, où tu n'as pas de préparation. Pendant l'année, tu n'en as plus de préparation. Les mecs, ils sont une semaine en mars et une semaine après, je crois, c'est ça, en mai peut-être, avec là, il y a eu 3 semaines de préparation. Et donc, je me demande si le seul plaisir que tu prends dans ces compétitions, c'est tu supportes ton équipe nationale, voilà, parce que c'est comme ça, c'est le bon nationalisme, on va dire. Mm-hmm. Je ne sais pas si à ce moment, on peut dire des trucs comme ça, mais où tout le monde se réunit pour regarder les matchs dans les bars, il a dit, notre auditeur tout à l'heure. Alors que si tu veux te régaler, c'est la Ligue des Champions, c'est les matchs de club. Et là, on voit des matchs souvent de très très haut niveau quand tu arrives au bout. Là, tu vois du rythme, tu vois du pressing, tu vois des joueurs hors normes qui jouent toute l'année ensemble.
Eric, on arrive à la fin de la première mi-temps. Entre la Roumanie et les Pays-Bas. On y va avec Florent Germain, d'autant qu'il y a un corner roumain, c'est ça?
Oui, après ce sera la pause. On est au-delà des 3 minutes de temps additionnel. 1-0 pour les Pays-Bas. Le buteur Cody Gakpo à la 20e et les Roumains qui sortent un petit peu. On vient de voir une frappe de Denis Dragouche. Et là, c'est Hadji avec son pied gauche qui met ce ballon dans la boîte. C'est pris de la tête par Van Dijk, mais récupération de Hadji avec son pied droit qui va mettre au deuxième poteau. La tête, pourquoi pas? C'est pas terminé. Il y a eu du dégât dans la surface de réparation avec un choc tête contre tête. Se relever le joueur roumain. Je pense que ça va être bientôt la mi-temps. C'est un moindre mal pour cette équipe roumaine. Voilà, d'aller à la pause avec un score seulement de 1-0. Il y a notamment eu une grosse occasion avec un ballon gratté par Dumfries en retrait pour Xavi Simons qui s'est complètement manqué au point de pénalty. Lui qui jouera probablement au Bayern Munich. Tout est sur rmcsport.fr la saison prochaine. 1-0 à la pause pour les Néerlandais, buteur Cody Gakpo.
Merci Flo. Dans une seconde, j'ai quelques questions pour Eric Roy et avec même une info Mercato qui va compter dans ta préparation.
Aïe, il va être obligé de nous faire de la langue de bois là. Ça va
tout de suite.
RMC intégral euro.